pourquoi Laurent de Wilde et pas de Wilde?
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ou de Wilde.
Ça me faisait assez marrer que ça s'appelle Do et que je m'appelle Rémi, hein, c'est tout con.
J'avais pas fait la connexion, mais ouais.
Voilà.
Je pense que le son dit quelque chose de l'être humain.
Yes, please. Thank you very much.
Jazz interview. Pour une rencontre avec un artiste de jazz. Passez un très bon moment sur Art District.
Avec Serge Mariani.
Changer le monde, c'est souvent l'objectif, la mission même parfois que se donnent celles et ceux qui produisent cette chose exceptionnelle que l'on appelle musique. Ils et elles ont la foi en toutes les vertus que l'on peut prêter à l'émission plus ou moins coordonnée et improvisée de sons harmonieux ou pas, et des rythmes qui vont avec. Car on ne fait pas a priori de la musique comme on fait un avion de ligne, une chemise en lin ou même du pain, non, c'est un peu différent. Pourtant, il y a des productions musicales, une économie de la musique, toutes sortes d'aspects que l'on peut lui rattacher et qui font de cette musique, de ces musiques, serait-il plus juste de dire, un objet, une entité dont les responsabilités ne sont pas si limitées que l'on pourrait le croire ou le laisser croire. Et particulièrement dans le cadre de l'engagement pour une présence durable et responsable au monde qui nous entoure, duquel nous ne sommes individuellement et collectivement que des maillons d'une chaîne bien longue. C'est ce que se sont dit les membres d'un collectif d'artistes de la musique ayant décidé de passer à l'action en se rassemblant, pour commencer, sous une banderole où il est écrit ceci « Pour une écologie de la musique vivante ». Appel des musiciens, musiciennes et des producteurs, productrices de musique engagée et ES pour la transition écologique et la sauvegarde du vivant. Vaste et ambitieux programme que celui-là, mais pour s'élancer dans un tel combat, il vaut mieux être porté par un enthousiasme puissant. Ce ne sera pas facile, mais la troupe avance en renserrée derrière quelques figures qui seront toujours loin d'abandonner l'action pour ce qui est juste à leurs yeux. Et c'est bien le cas de Leïla Martial. Bonjour Leïla.
Bonjour Serge.
Ça va bien?
Très bien.
Bon, alors on est toujours, enfin de mon côté, hein, je pense que ça évolue peut-être après, parce que je ne suis pas dans Paris, pas tout à fait. Et donc on est toujours en liaison internetienne. On se voit via Skype, pour ne pas le citer, et on va enregistrer cette jazz interview, non pas à l'occasion donc de la sortie d'un album ou d'une grande tournée que tu ferais incessamment sous peu, mais d'un projet que je viens de dresser le portrait à grand coup de pinceau. Alors, ce que j'aimerais pour commencer, Leïla, c'est que tu nous dises comment, d'où vient cette idée, comment elle est née. Dans les esprits, le tien et de quelques autres, parce qu'il y a un manifeste hein, qu'on peut consulter, on en parlera après, qu'on peut consulter sur les réseaux, d'un gros communiqué très clair qui expose exactement en quoi ça consiste, et il y a déjà une bonne liste de noms, de personnalités, de la musique, mais pas seulement de la musique, on en parlera d'ailleurs, qui sont motivés par ce beau projet. Alors,
on va dire que le confinement a permis de dégager du temps dans cette vie frénétique de musicien, de creuser des sujets ou de mener des réflexions que j'avais pas le temps de mener, qui étaient importantes à mes yeux, mais que j'avais pas le temps de mener. Donc pendant ce confinement, j'ai lu un livre qui s'appelle « Le plus grand défi de l'histoire de l'humanité » d'Aurélien Barreau, qui est un astrophysicien, citoyen très engagé dans l'écologie et dont je suis les interventions assidûment.
Oui, c'est certain, je dis parce que quand on te suit un peu, notamment sur compte Facebook, par exemple, depuis un certain temps, c'est vrai que tu relais très régulièrement les prises de position, de parole d'Aurélien Barreau, qui est d'ailleurs justement un des signataires du projet.
Hein. Ouais, ben, c'est vrai que c'est quelqu'un, pour moi, c'est une source de connaissance du sujet. Je le trouve tellement brillant, tellement juste dans ses analyses. C'est une valeur sûre pour moi. Et donc, après ce bouquin, c'est vrai que j'ai eu un moment d'abattement total parce que c'était dur de se confronter à cet état des lieux de notre planète, enfin cet état.
Et Leïla, ça date de quand, ça?
C'était fin mars. Et moi, enfin, j'avais du temps pour me documenter sur des sujets qui me tenaient à cœur et puis prendre le temps. Voilà, de réfléchir. Et donc après ce moment d'abattement total, ça m'est venu comme, je sais pas, comme une chanson, ou comme j'ai commencé à écrire des propositions qui me semblaient urgentes pour rendre nos pratiques compatibles avec une préservation du vivant sur Terre, ouais. de l'environnement. Donc un fonctionnement qui soit supportable pour la planète. Donc j'ai commencé à écrire ça, puis ensuite j'ai appelé un musicien qui s'appelle Pierre Perchaud, qui a une réputation d'être assez engagé au niveau écologie. On a discuté, puis j'ai regroupé quelques personnes, un petit groupe de réflexion, Adrien Chiquet, qui est conseiller à l'ONDA, mon tourneur, Laurent Carrier, des directeurs de scène nationale, des musiciens évidemment, Grégoire Letouvet. Mmh. Et puis on a fait une première réunion Zoom. On a discuté de ce sujet-là, et on a continué d'écrire. Et puis ensuite, on a vraiment rédigé, ça s'est transformé en deux textes, cet appel, qui en fait recense et un peu les problématiques dans lesquelles on se trouve, que ce soit les musiciens ou les chargés de diffusion, les lieux, etc., les injonctions contradictoires qu'on subit entre une logique productiviste, concurrentielle, où il faut aller toujours plus loin, faire toujours plus, etc. Et puis, une exhortation des climatologues à justement relocaliser, faire moins, parce qu'en tant que musicien, on a une empreinte carbone importante. C'est pas négligeable du tout. Et donc, je pense qu'il est temps juste de se regarder en face, tout simplement. D'arrêter de se défiler et d'être clair avec le fait que chaque acte, chacun de nos actes a un impact.
D'accord. Voilà.
Et donc quand je prends l'avion, ça a un réel impact. Quand j'ouvre une petite bouteille d'eau, même si elle est gratuite parce que je suis invitée sur une scène, ça a un impact. Ça produit du déchet qui ne sera pas, qui sera irréversible pour la Terre, qui participera à déglinguer notre belle planète Terre qui nous abrite.
Je reviens rapidement sur la personnalité, la présence d'Aurélien Barraud. Alors, c'est drôle parce que, enfin, c'est drôle. Je ne sais pas si Aurélien Barraud a des réels objectifs politiques, par exemple. J'en suis pas très sûr. Mais ça m'a rappelé c'est bien pour revenir à la motivation que tu as. C'est que je me suis souvenu, c'est le terme astrophysicien, surtout que je me suis dit, mais je me souvenais, moi j'ai un certain âge déjà, et en 1974, il y avait une élection présidentielle en France, bien entendu, et il y avait le premier candidat écolo qui s'appelait René Dumont. Et ce personnage était agronome, lui, donc il n'était pas astrophysicien comme Aurélien Barraud, mais c'était déjà un professionnel, on va dire, quelqu'un qui savait de quoi il parlait aussi, ce n'était pas un politique au sens strict. Et en 73 et 74, pendant la campagne qui a finalement vu l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, hein, après le décès de Pompidou, c'est une personnalité qui a déjà tiré tellement de sonnettes d'alarme qu'on se dit, mince, c'était quand même en 1974, quoi. Tu vois, c'était pas il y a deux élections présidentielles. Et qu'il a fait 1,32% des suffrages au niveau national. Et que quand il apparaissait à la télé, je me souviens, il avait en général été vêtu de façon très originale pour l'époque, enfin, originale en tout cas à la télévision, c'est-à-dire qu'il avait juste un pull à col roulé, en général rouge ou vert, je ne sais plus. Et puis qu'il avait, comme tu dis, cette histoire d'eau, il avait un verre d'eau à côté de lui. Et puis parfois un fruit, une pomme par exemple. Et puis il disait ça a l'air de, on trouve ça tout à fait normal, mais ça vient pas comme ça. L'eau c'est précieux, les fruits, la nourriture, l'aliment naturel, c'est extrêmement précieux et fragile. Et en fait, je crois qu'à l'époque où il y avait cette campagne électorale, on n'avait même pas encore vécu le célèbre choc pétrolier. Donc tu imagines, c'était un peu pour recadrer. Je me suis permis cette parenthèse un peu longue. Parce que la personnalité donc d'Aurélien Barraud, qui figure, qui est donc pas un musicien, mais qui est quelqu'un qui inspire certaines des objectifs et des données que vous utilisez dans ce projet, et ben voilà, il y avait une sorte d'ancien avant en la personnalité de cet agronome candidat à une élection présidentielle. Alors là, vous faites pas de la politique, on a bien compris. vous mettez en place un programme, on va dire, un projet, et comme tu as dit aussi, un appel dans lequel vous allez essayer de fédérer un maximum de gens de la, du domaine, de la filière, disons, musicale, à chaque bout et maillon de la chaîne. Donc, on va voir ça dans la suite de l'émission, Leïla. Pour l'instant, on va faire une première petite pause musicale. Alors, tu m'as fait quelques propositions. Alors, moi, j'ai décidé de commencer par un truc quand même assez dingo que tu as fait récemment, que tu as enregistré dans ta salle de bain. Une sorte, j'ai appelé ça, je ne sais plus comment toi tu as appelé ça, mais moi, je l'ai appelé la mignonnette bien tempérée. Ouais. Et c'est... Tu vas nous le dire après. Donc, on va écouter tout ou partie de cette improvisation, variation sur le célèbre, un passage du célèbre clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach par Leïla Martial dans sa baignoire avec des mignonnettes autour d'elle. Voilà, c'est parti. Leïla Martial dans sa salle de bain, dans sa baignoire même, avec devant elle une tablette, un peu comme elle fait lorsqu'elle est en solo, en concert même, et sans les, parce que les instruments électroniques, ça aurait pu être dangereux. Et donc c'était une planche sur laquelle il y avait toutes les petites mignonnettes, les petites bouteilles plus ou moins vides qu'elle utilise pour faire sa musique, son chant un peu inspiré notamment, on va le voir d'ailleurs, on va en parler là. De ce que font les pygmées du Congo notamment. C'était donc, on appelait ça la mignonnette bien tempérée, une variation très personnelle sur le clavier de Jean-Sébastien Bach. Alors, ouais, justement, Leïla, ce que je voulais aborder dans cette deuxième séquence de cette jazz interview qui est consacrée, donc je le rappelle, au projet, à l'appel dont tu es l'une des principales responsables, oui, pour une écologie de la musique vivante. Je voudrais qu'on revienne à ton expérience de musique et de ressourcement, si on peut dire, au Congo, où tu es allé, je crois que ce n'est peut-être pas la première fois, mais au Congo, parmi les pygmées, certaines tribus pygmées, les Haka notamment, qui ont ces traditions musicales qui, toi, pour lesquelles tu as un grand attachement et que tu utilises, n'est-ce pas ?
Oui, tout à fait. Enfin, ce sont des chants, les chants des pygmées Haka, qui me fascine depuis de nombreuses années, depuis mon adolescence. Donc c'était un rêve de gosse d'aller en immersion dans la forêt avec ces peuples de la forêt, chanter avec eux, puis apprendre.
Et tu avais dit, ce sont pas des gens qui comment dire, qui font de la musique comme nous, et puis du genre, ah bah tiens, ce soir on a un concert, on monte sur scène, et puis cet après-midi on aura répété. Non, qui vivent la musique. C'est-à-dire que la musique est une partie intégrante de leur vie, sinon même un mode d'expression total.
Oui, puis ça accompagne des tâches du quotidien.
Voilà.
Et puis, il y a moins cette dimension de performance, de représentation. C'est là vraiment pour accompagner des gestes et des activités. Après, même quand même, c'est présent pour des rituels, etc., bien sûr.
Oui, ce que tu veux dire par là, c'est qu'il y a en effet une partie rituelle de célébration qui sont en effet portées ou accompagnées par des chants, bon, un peu comme partout, on va dire, en gros, dans le monde, hein, notamment pour tout ce qui touche aux religieux, mais que ce sont encore des peuples qui vont souligner, je ne sais pas, le fait d'aller au marché ou d'aller cueillir des fruits ou quelque chose, une activité du quotidien, par un chant bien particulier, des chants bien particuliers que les uns et les autres vont connaître et reconnaître.
Bah, ce qui me touche, c'est que le chant est là, est présent dans la vie quotidienne, comme il l'était chez nos ancêtres à nous. Mais ça a disparu. Maintenant, c'est circonscrit à des salles, etc. Les gens chantent beaucoup moins spontanément. On n'a pas trop de chants en commun. Voilà, donc là, culturellement, ça n'a pas disparu. Et donc, ça me touche beaucoup.
Et alors, pour nous reconnecter au thème de cette émission, donc, qui est cet appel que tu lances avec déjà un assez grand nombre de musiciens d'une part et d'autres personnalités, comme Aurélien Barreau, comme on l'a déjà dit, en quoi cette expérience, alors tu vas me dire évidemment, les pygmées de la forêt du Congo, ils sont pas dans un contexte où ils vont faire une tournée chez eux et jouer, se poser des problèmes que nous nous posons ou que nous commençons à nous poser enfin peut-être, de savoir si on consomme trop d'électricité, si on gaspille de l'eau, si je sais pas quoi, etc., etc. Et la lumière et compagnie. Donc, comment est-ce que ça nourrit ta réflexion par rapport à ce projet, cet appel pour une écologie de la musique vivante?
C'est dans notre appel, on parle de relocalisation de notre art, au même titre que l'agroalimentaire. De cesser cette espèce de consumérisme et puis de fast-food de la musique, on va dire. Aujourd'hui, les musiciens, ils sont appelés pour aller jouer une heure à l'autre bout du monde pour une entreprise privée et puis rentrer point à la ligne. Ça ne va pas apporter grand-chose à l'humanité de faire ça. Et puis ça va, parce qu'on joue pour un cercle fermé de gens privilégiés. Ensuite, ça va dézinguer la planète parce qu'un long courrier, c'est catastrophique au niveau empreinte carbone. Et par contre, on prône le voyage, renforcer le contenu de nos voyages, redonner du sens et de les envisager sous l'angle de l'immersion, c'est-à-dire d'aller dans des endroits pour vraiment vivre quelque chose. Pas juste aller se faire mousser sur le CV, ouais, je suis allée à Hong Kong, je suis allée faire une date, ouais, je suis allée. Non. Repenser, donner de la valeur, du précieux. Quand on va quelque part, on y va, vraiment. Et nous, le voyage avec les AK, ça fait l'objet, c'est quelque chose qui s'étale sur plusieurs années, ça fait l'objet d'un documentaire, d'un spectacle, de plusieurs voyages où on a vraiment une réelle aventure humaine.
Alors Leïla, on va terminer cette deuxième séquence justement en écoutant un petit peu de tradition musicale, vocale surtout, d'une des tribus pygmées du Congo donc, et puis revenir pour la dernière séquence déjà, et revenir aussi un peu plus en détail sur les premiers objectifs que vous vous donnez. On en a déjà évoqué un peu certains là, avec cet appel pour, je le redis, une responsabilisation pour la musique vivante et une responsabilisation écologique. Voilà. Donc, en attendant de nous retrouver, on écoute un petit peu de tradition vocale pygmée. Avant cette troisième et dernière partie de la jazz interview de Leïla Martial, que nous retrouvions à l'occasion d'un projet et d'un appel dont nous allons parler maintenant, nous venons d'écouter un extrait de ces traditions musicales et vocales, surtout des tribus pygmées et Aka en particulier du Congo. Tu nous redis, Leïla, de quoi il s'agissait rapidement ?
C'est donc un morceau extrait de l'album de Ndima. Ndima, c'est le groupe de Aka qu'on a rencontré. Et c'est un groupe qui a été constitué par Sorel Eta, un ethnologue, maintenant manager, qui s'est donc inventé manager. Il a réuni cinq musiciens de la tribu. Et puis, depuis une dizaine d'années, il fait des tournées. Donc, c'est un des très, très rares groupes de peuples de la forêt qui tournent. Qui tourne en Europe et puis à travers le monde. Donc voilà, c'est grâce à lui qu'on a pu vivre cette expérience aussi. Lui, il est congolais.
Appel des musiciens et des musiciennes, producteurs, productrices de musique, engagés pour la transition écologique et la sauvegarde du vivant. Quels sont, Leïla, les premiers objectifs que vous pensez atteindre, on va dire, dans un délai raisonnable de l'année, les mois qui viennent, l'année qui vient, quoi?
Il y a eu une réelle urgence chez moi de faire bouger les lignes, de réveiller les consciences dans ce milieu. Et comme je disais, de se regarder en face et puis aussi de se réunir. C'est-à-dire que si on opère ces changements et qu'on fait ces sacrifices, les musiciens seuls, le seul résultat qu'on a, c'est de s'invisibiliser professionnellement et de s'extraire du jeu. Et donc ça, on ne le souhaite pas. C'est pour ça que d'emblée, moi, j'ai eu envie qu'on soit réunis avec différents corps de métier, c'est-à-dire que les chargés de diff, les lieux de diffusion, les sociétés civiles, les techniciens, les artistes, qu'on soit tous moteur de ce changement-là. Parce que si seuls les musiciens prennent la responsabilité de tout ça, la seule chose qu'on va obtenir, c'est de se marginaliser et juste d'avoir moins de boulot. Et moi, c'est pas ça que je veux. Moi j'ai un grand appétit de jouer, de faire des choses. J'ai envie juste qu'on se prenne tous par la main et qu'on se dise ça va pas. Il y a quelque chose, de toute façon, aujourd'hui, il y a un fonctionnement qui nous épuise à tous. C'est énergivore pour les musiciens qui sont sans arrêt dans les transports pour il y a plus de cohérence en fait de tournée. C'est-à-dire il y a encore quelques années, les lieux s'organisaient entre eux pour qu'on puisse enchaîner des dates voilà, cohérentes en termes géographiques. Aujourd'hui, chacun est dans sa logique. On joue dans un tel pays avec un tel groupe, le lendemain, un autre pays. Plus personne n'est capable de se mettre en réseau. Les diffuseurs, ils sont fatigués parce qu'ils passent deux tiers de leur temps à faire de la logistique transport. C'est énergivore pour la Terre, évidemment. Il y a un changement qui serait bénéfique pour tous. Et aujourd'hui, on marche sur la tête. Ça va pas. Mais c'est la même chose dans l'agroalimentaire. En fait, on a besoin d'être plus résilient. On a besoin de faire des choses qui sont plus ergonomiques pour nos corps, pour nos pensées, pour être moins... je veux dire, si on enchaîne et qu'on est tous fatigués, on est moins intelligent parce qu'on a moins de temps pour réfléchir, on a moins de temps pour créer, l'art est moins intéressant. Enfin, tout ça, c'est important pour tout le monde.
Oui, je vois là, tout en t'écoutant, je faisais défiler un peu le texte de cet appel qu'on peut trouver. On rappellera d'ici la fin de l'émission comment se procurer des informations et peut-être participer. Il y a donc en effet, il est écrit avant la longue liste des signataires de cet appel qu'il est temps, grand temps, d'imaginer un art vivant qui soit aussi un art du vivant. Hein, c'est la dernière phrase de ce manifeste, et c'est exactement ce que tu viens de dire, de concevoir. Alors, moi, c'est juste que je comprends bien le concept hein, de la relocalisation, par exemple. Est-ce que ça signifie, parce qu'on est tellement bercé maintenant, on peut le dire, dans une civilisation où en effet presque tout semble possible à tout instant, à quasiment tout le monde, et que si on a envie de se faire livrer presque un plat directement venu de je sais pas où, d'Afrique du Sud, ça reste envisageable. Tu vois. Bon, donc on est dans cette espèce de logique qui paraît au bout d'un moment on se réveille, on trouve ça tout à fait normal, et que si on ça cesse, ben on se dit bah pourquoi. Donc comment pour être un peu plus précis, revenons sur ça me paraît important, cette relocalisation de la musique vivante, parce qu'on parle pour l'instant on parle que de la musique, mais ça peut concerner tous les arts, j'imagine, hein, enfin bon, la plupart.
Alors je préférerais parler de revalorisation de l'artiste qui agit localement. On parle aussi du modèle d'artiste qui faut redéfinir. C'est-à-dire que c'est plus possible que le modèle de réussite, ce soit celui qui fait tout le temps les plus grosses jauges, qui va le plus loin possible, qui vend le plus grand nombre de disques, qui a le plus grand nombre de spectateurs. C'est surtout celui qui esquinte aussi le plus la terre. Donc, c'est là que je dis qu'on est on est dans des injonctions contradictoires, et à titre personnel aussi, c'est difficile parce qu'il y a une vraie incohérence. C'est-à-dire, moi, je suis ambitieuse, par exemple, moi, j'ai envie de jouer, de faire connaître ma musique. Comment faire pour que ce soit vertueux, que ce soit respectueux de l'écosystème, en fait. On s'attaque aussi au partage des richesses. On fait du social. Enfin, quand on commence à ouvrir, à regarder les choses par le prisme de l'écologie, on travaille surtout sur réinventer un système. En fait, on veut changer de paradigme, changer de modèle de valeur, de modèle de l'artiste. Qu'est-ce que c'est? Et donc, il faut forcément que les organismes de subvention ils valorisent d'autres profils, d'autres projets. C'est tout ça. C'est pour ça que je dis qu'on doit être tous réunis pour travailler ces questions. Il faut valoriser des nouvelles initiatives qui sont justement plus vertueuses, entre guillemets, des nouveaux modèles qui sont plus modestes, qui sont plus qui prennent en considération, plus solidaires, qui prennent en considération. Il faut aussi mutualiser les compétences. Moi, ça ne me dérange pas tant que ça qu'il y ait des concerts en ligne. Par contre, on est envahi de petites micro-vidéos inintéressantes aussi, de gens qui montrent, qui sont en temps réel en train d'exhiber le processus de préparation d'une œuvre. Une fleur qui pousse, une fleur qui éclot, on voit à partir du moment où elle l'ouvre, mais elle n'est pas toujours en train de nous envoyer des photos de là où elle en est, et de comment elle part. Bon, j'en sais rien, bon, la comparaison est un petit peu naïve, mais je ne sais pas trop si ça va remplacer le concert réel. Je n'ai pas le recul, et je pense que personne ne l'a.
Oui, non, mais bien sûr. Je ne pense pas, mais moi non plus, et j'espère pas surtout, mais je ne pense pas. Néanmoins, bon, voilà, on a été confronté avec cette situation sanitaire extrême, sans juger ni préjuger des façons diverses dont elles ont été gérées, on va dire. Mais voilà, on a fait là l'expérience, et les musiciens en particulier, mais le public aussi, d'une situation inédite où on était privé, et de façon radicale, de contact, de possibilité de se rassembler, et notamment pour profiter du plaisir d'un spectacle et d'un concert en particulier. Voilà. Bon, Leïla, c'est un sujet... moi, ça m'intéressait beaucoup de parler de ça, même si c'est encore très, très jeune, et que le projet est juste lancé, hein, cet appel, et que maintenant, justement, ben, petit à petit, avec toutes les personnes qui vont se rassembler autour de lui et autour des personnes qui l'animent, et ben, faire avancer les choses... concrètement et dans l'exercice de leur art. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. On va proposer peut-être aux toutes les personnes qui sont intéressées de pouvoir consulter ça. Où est-ce qu'on peut voir ça? Enfin, moi, je l'ai, mais je ne me souviens plus. C'est hébergé par un site, c'est ça?
Alors, c'est disponible et hébergé par le site de Grand Format, la fédération des grands ensembles, et sinon on a aussi créé une page Facebook pour une écologie de la musique vivante. Et je voudrais aussi dire à quel point on a été touché par l'accueil qu'a reçu ces travaux, qui nous a dépassé. Et ça nous a permis de nous rendre compte à quel point le milieu avait besoin de poser le sujet sur la table, vraiment. Donc, ce confinement aussi, j'ai l'impression, a permis aux gens de réaliser l'urgence et que maintenant, il ne s'agissait pas juste de regarder ça de loin, mais vraiment de se prendre en main. Et puis, plus on est fou, plus on rit. Enfin, si on le fait tous ensemble, ça va être sympa. Ça va être chouette d'inventer. En fait, c'est pas triste d'essayer d'inventer un nouveau monde, d'inventer un nouveau système. Au contraire, ça fait appel à de la créativité, de l'imagination, de la mise en commun. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus excitant que ça.
Bon, ben Leïla, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cet appel. Donc, en effet, on invite tout le monde, le maximum de gens à s'y intéresser, à participer, chacun comme il le peut. On va se dire au revoir avec un peu de musique vivante. Alors, moi, ça ne va pas te surprendre. Nuit pygmée, comme ça on est quand même un peu raccord, enfin pas qu'un peu avec le sujet et ce qu'on a évoqué tout à l'heure des pygmées. Et c'était donc, enfin, c'est toujours un des titres de ton plus récent album avec Babox, le Warm Canto. Voilà.
Et je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est que dans ce groupe Facebook qu'on a créé pour une écologie de la musique vivante, c'est vraiment pour recueillir et recenser toutes les idées, les initiatives, enfin, les gens peuvent y aller de bon cœur, c'est pour échanger, parce que tout ça, c'est vraiment en évolution, en fonctionnement. Là, on est en train de constituer un comité de 20 personnes pour réfléchir encore, s'organiser. On va essayer d'organiser des états généraux là-dessus, peut-être à la rentrée. Voilà, c'est un dossier vraiment vivant.
D'accord, tout le monde peut participer au maximum. D'accord, eh ben, on le fera. Voilà, et nous, avec Art District Radio, on a participé aussi et on continuera. Voilà, donc Leïla, ben, on se dit au revoir et merci avec Nuit Pygmée de Babox de Warm Canto. Et puis, on suit l'évolution du projet et de l'appel pour une écologie de la musique vivante. Allez, à bientôt, merci.
Merci Art District.
À bientôt Leïla, merci.
Thank you. eyes are sold. You go through bars and I'm a third level in you. I could hurt no more body lays at the farm and no way. Don't go away, don't go away, don't go away, stop it, yeah. I throw nine jewels. I throw my ball, I throw my ball, I throw my ball, I throw my ball.